1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez ou que vous grandissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Une autre version nous dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Amen. Regardez dans la lettre qui suit, toujours de Pierre, c'est la deuxième, au chapitre 3 et au verset 18. Donc c'est tout à la fin, une dernière recommandation de Pierre à la fin de sa vie, voilà ce qu'il dit. « Mais croissez ou grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croissez ou grandissez. Ce matin, si je pouvais donner le titre à la prédication, c'est vraiment ce verset-là. Grandissez dans la grâce. Le Seigneur nous donne sa grâce, mais nous sommes appelés à marcher dans un processus de développement. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à aller plus loin. De la même manière que ce premier verset qu'on a lu, le lait spirituel et pur de la parole, il est pour les nouveau-nés, mais le nouveau-né ne reste pas toute sa vie nouveau-né. Sinon, il y a un problème. On est d'accord. Quand des parents voient que leur enfant ne grandit pas, ils s'inquiètent, et c'est normal. Mais quand on voit qu'il y a un développement naturel, à un moment donné, le bébé va dire « Merci pour le lait, ça a bien servi, mais maintenant je veux du bon steak. Maintenant je veux la côte de bœuf. » Ah, voilà, quelque chose de consistant. Et c'est normal parce que ça fait partie du développement. Et le Seigneur nous invite à réfléchir que nous sommes dans un processus, un développement, une croissance, et nous sommes appelés à faire des progrès. Mais il y a quand même cette idée que nous sommes comme des enfants. Dans la parole de Dieu, on voit à plusieurs reprises qu'il y a quelque chose qui est dit par rapport à l'attitude des enfants. Nous sommes appelés à ressembler aux enfants. Alors, on le sait parfaitement. Déjà dans ce passage, on sait qu'il y a cet aspect qu'on doit désirer le lait. Est-ce que le bébé qui vient de naître, vous qui êtes maman et qui avez eu un bébé entre les bras, est-ce que le bébé qui vient de naître, il faut lui expliquer comment ça fonctionne pour avoir du lait? Est-ce qu'il faut lui faire un cours magistral de 10 heures avec un pavé à lire pour lui expliquer? Non. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa nature, c'est inné, c'est dans ses gènes, et il sait qu'il en a besoin, et naturellement, il va désirer le lait de sa maman, et on sait très bien, quand on fait les études, quand on regarde des scientifiques qui font leur rapport par rapport au lait maternel, on voit qu'il y a vraiment une richesse. Je le disais ceci, le lait maternel fournit des éléments essentiels au bon développement du nouveau-né, des nutriments, des anticorps. Mais on sait qu'il contient maintenant des biomolécules permettant de lutter contre les inflammations, contre les infections et qui favorisent la cicatrisation aussi. Il y a tout ça qui se passe dans le lait maternel sans qu'on s'en rende compte. Et le bébé, il n'en a même pas conscience. Mais lui, il a un désir pour le lait. Et nous, on a un désir pour la parole. Quand on naît de nouveau, il doit y avoir dans notre cœur ce désir. Et peut-être un des signes de la nouvelle naissance, c'est est-ce que j'ai ce désir naturel pour la parole de Dieu. Oui, des fois c'est dur, ça demande de se faire violence, mais j'ai quand même ce désir, parce que je sais que c'est bon. Et je me rends pas compte, mais il y a toutes sortes de choses, la protection de Dieu, il y a la grâce de Dieu. On pourrait faire un parallèle incroyable et passer tout le temps la prédication juste sur ça, mais je voulais juste vous le présenter, parce que c'est intéressant de réfléchir à cela. Nous devons avoir le désir pour la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 18, vous savez, à un moment donné, les disciples, ils se posaient une question. C'est bien des fois de se poser des questions, mais là, il se posait la question « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Sous-entendu, est-ce que c'est pas moi, Seigneur ? Des fois, on est comme ça, tu vois, tout ce que j'ai fait pour ton service éternel, je crois que je vaux quelque chose dans ton royaume. Et vous savez ce qu'a fait Jésus ? Il a amené un petit enfant, et il a placé au milieu d'eux, et il a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et alors il insiste, après il montre c'est quoi, quel aspect de l'enfant il faut ressembler. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quand on regarde les enfants, on a des images incroyables de ce que Dieu veut que nous soyons par rapport à lui qui est notre Père. Il y a des belles images qui sont là. Et là, une de ces images, c'est cette humilité. Le petit enfant, il a une humilité naturelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Et il dépend donc de ses parents. Il dépend du modèle qu'on lui donne. Il y a une humilité. Et malheureusement, certains adultes, des fois, profitent de la naïveté pour faire faire à leurs enfants toutes sortes de choses mauvaises. Mais il y a une humilité de l'enfant qui accepte que l'adulte lui donne les conseils qu'il faut, etc. Alors, des fois, il y a des tensions, mais en tout cas, de manière générale, il y a cette humilité. Il y a aussi ce psaume 131 qui nous parle de David, une expérience. Il explique un petit peu quelque chose qu'il a vécu avec le Seigneur. Et il dit de cette manière, « Seigneur, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Pourtant, il était roi, hein. Il était chef de l'armée, il avait toutes sortes de fonctions. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » J'ai l'âme comme un enfant sevré. Vous avez déjà vu un enfant sevré? Un enfant qui a bien mangé, qui a fait son petit rôt, et qui est là tout détendu dans les bras de sa maman. C'est la merveilleuse image de ce que Dieu veut que nous vivions quand nous sommes dans sa présence. Qu'après avoir pris le lait pur et sain de la parole, ben nous puissions être dans cette satisfaction, dans cette paix de l'âme, dans ce repos, parce que le Seigneur il veut que nous ayons cette communion avec lui. Et peut-être la principale de nos préoccupations, ce n'est pas de rêver, d'avoir de grands rêves pour Dieu, tant mieux si on en a, mais ça ne doit pas être notre priorité. La priorité, ça doit être d'être sevré auprès de notre Dieu, de recevoir de lui tout ce qu'il veut nous donner. Le problème, tout ça c'est de belles images par rapport aux enfants, mais le problème c'est que parfois on pousse les images trop loin. Là je vous ai recadré un petit peu ce que dit la Bible par rapport aux enfants, ce dont on doit s'inspirer. Mais il y a des attitudes, quand on a des enfants, on le sait tous, il y a des attitudes que les enfants ont et qui sont pas bonnes. À moins que vous ayez des enfants parfaits, mais sinon, à un moment donné, vous avez dû le reprendre pour ceci ou pour cela. Je vous donne une petite liste non exhaustive. La jalousie, les caprices, la bouderie, l'impatience, susceptibilité, la dépendance, ne veut rien faire par lui-même, égoïsme. Et tout ça, on pourrait continuer la liste, elle est longue. Mais le problème, c'est que parfois, on trouve des adultes qui réagissent comme des enfants. Et qui, parce que il cite, oui, le Seigneur nous a dit de ressembler à des enfants, donc j'ai le droit que mon caractère, des fois, j'ai le droit de faire un caprice. Mais non, on doit ressembler à des enfants pour les bonnes choses, pour les bonnes attitudes, mais pour le reste, on doit être des adultes, on doit être responsable. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on trouve aussi cette image, ces versets, ces recommandations qui nous disent, soyez des hommes forts, soyez des personnes matures, des hommes et des femmes spirituelles, des personnes qui ont la capacité de juger, de raisonner et d'agir en conséquence, qui prennent en main leurs responsabilités. Le Seigneur nous appelle à grandir. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu qui nous montre une naissance qui a pris place dans un contexte miraculeux, et un petit enfant qui est né de ce contexte-là, qui a commencé à grandir. Vous vous souvenez ce contexte? Quand Samuel est arrivé dans le foyer de ses parents, qu'est-ce qui était le problème? Mais sa maman était stérile, tout simplement. Et ça faisait des années que ça durait, un problème qui dure depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas, des fois, dans nos vies, des problèmes qui durent depuis des années? Mais à un moment donné, parce que cette femme s'est approchée de Dieu de tout son cœur, parce qu'elle a déposé, elle a transféré son problème sur le Seigneur, et elle a compris que lui, il avait la solution pour elle, il y a eu un miracle, elle a commencé à sentir quelque chose dans son ventre, et puis finalement, il y a un petit garçon qui a pointé le bout de son nez, ce petit garçon c'était Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 2, il y a trois versets dans ces passages qui nous montrent que Samuel a commencé à grandir, et il a commencé à grandir dans des contextes bien précis. 1 Samuel chapitre 2 verset 21, c'est de courts versets. Et je trouve que c'est important que nous les lisions. En plus, Dieu ne s'est pas contenté de bénir Anne avec un enfant. Mais dans ce verset, on voit bien. « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. » Alors, c'est pas d'un coup, hein. Mais par la grâce de Dieu, après avoir eu Samuel et l'avoir consacré au service de Dieu, Dieu a permis qu'elle ait encore avec son mari Elkana, cinq enfants de plus, donc c'est-à-dire que la femme qui était stérile a enfanté au final six enfants. C'est pas mal pour quelqu'un de stérile, hein. Et regardez ce qu'il est dit. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel, Au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Au chapitre 3, au verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Si nous voulons grandir avec le Seigneur parce que nous avons réalisé que nous devons être ses enfants qui grandissent, nous devons, à l'image de Samuel, apprendre à goûter à cette présence de Dieu. Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il n'y a pas 150 000 secrets, 150 000 moyens pour grandir, mais c'est de s'approcher de Dieu. Quand on est près de Dieu, je ne parle pas de venir à l'église seulement, mais je parle de cette attitude de cœur d'aimer le Seigneur et de soupirer après sa présence quand on est dans notre chambre. « Seigneur, je veux un moment d'intimité avec toi. » Et bien là, on commence à développer notre cœur, on commence à grandir. C'est de cette manière qu'on peut aller en maturité. Quand on est en faveur à l'Éternel, on est agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est de cette manière-là que Samuel grandissait. Ça nous parle de cette obéissance de cœur. Parce qu'il y a des moments où, quand on est agréable à l'Éternel, c'est simplement qu'on obéit à sa parole. Que Dieu voit dans le secret de notre cœur, notre désir de lui faire confiance, de mettre en pratique ses commandements. Et le résultat, c'est que ce sont des choses qui se voient. Il y a un bon témoignage, en faveur auprès des hommes aussi. Les hommes qui sont autour de nous voient qu'il y a quelque chose dans notre vie qui tranche. Et des fois, on n'a pas besoin de faire de grands discours, mais simplement notre vie qui met en pratique la parole de Dieu, c'est un grand discours. Et c'est suffisant pour convaincre les personnes qu'on a la faveur de Dieu. Et puis, ce jeune garçon plutôt, parce qu'il n'était pas encore un homme, mais il ne laissait pas tomber à terre la parole. Quand il entendait quelque chose, il savait que c'était pour lui. Et il le mettait en pratique. Et il obéissait. Et il faisait ce que Dieu lui demandait. Et ça a été un processus. Au début, on connaît l'histoire. On sait qu'il entend une voix, il ne sait pas qui c'est. Et puis Dieu lui apprend que c'est lui finalement qui veut se révéler à son cœur. Mais le but, c'était que cet homme devienne une bénédiction. D'ailleurs, c'était la suite de ce passage. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, du nord au sud, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël reconnut. Il y avait une reconnaissance, une renommée. Et Dieu veut qu'il y ait la même chose. Ah non, pas pour être prophète. On n'est pas tous appelés à être prophètes. Mais on est tous appelés à être des serviteurs du Seigneur. Là où il nous a placés. Et cela est possible si on va dans cette maturité chrétienne en nous approchant du Seigneur. Trois moyens tout simples, mais qui sont des réalités. Et pour y avoir goûté à ces choses-là, je peux vous le dire, quand j'ai commencé dans ma vie personnelle à prendre des moments, pas des courts moments le matin, mais de vrais moments intenses dans la présence de Dieu, ma vie a commencé à changer en proportion. Si on prend qu'une minute par jour pour prier le Seigneur, ben le Seigneur va avoir une minute pour nous changer si le reste du temps on n'a pas le cœur tourné vers lui. Mais si on prend des moments importants, peut-être c'est pas une heure dans notre chambre parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais tout au long de la journée, on revient continuellement vers le Seigneur. On est toujours, toute la journée, même quand on est derrière notre bureau, même quand on est dans notre voiture, on est auprès du Seigneur. Mais dans ces temps-là, le Seigneur fait son travail en nous. Et il nous amène à grandir. Alors, pour aller plus loin, je voudrais voir avec vous quels sont les signes de maturité. De quelle manière on peut savoir si on est en train de grandir en maturité? Et peut-être un bon moyen ce matin, ça sera d'étudier les réactions infantiles, celles que j'ai nommées tout à l'heure, et de voir ce que l'on peut en tirer pour nous. Première de ces réactions, qu'est-ce qu'on voit au milieu des enfants qui n'est pas forcément bon? Ben, une des premières choses que j'ai remarquées parmi les enfants, c'est qu'il y a une des premières paroles qu'ils apprennent à dire, c'est « il y a non » et puis il y a « c'est à moi ».« C'est à moi ». Alors pourtant, c'est nous qui fournissons le bibi ou la sucette. « C'est à moi ». Ça m'appartient. Et cet aspect de l'égoïsme, on n'a pas besoin de leur apprendre l'égoïsme aux enfants, mais naturellement, ils ont compris qu'il y a certaines choses, ça leur revient à eux. Et ils veulent pas partager surtout. Et le manque de maturité se voit dans cet aspect-là. Et il y a des adultes, alors dans le monde, on le voit, il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais des fois même, sans s'en rendre compte, il y a cet aspect qui peut se manifester dans le cœur de même des chrétiens. Et le Seigneur nous demande de faire Attention à ne pas être égoïste, à ne pas être toujours centré sur nous. Être chrétien, c'est justement, d'après le nom, c'est être centré sur Christ. C'est être tourné vers Christ. Et quand on est tourné vers Christ, lui, vous savez vers qui il est tourné ? Vers tous les autres. Donc automatiquement, c'est comme un miroir qui réfléchit. On est tourné vers les autres. Et quand on s'approche du Seigneur, on a ce désir. À notre niveau, avec notre capacité, parce qu'on ne peut pas changer tout le monde. Je connais quelqu'un qui, quand il voit un besoin, absolument, il veut répondre au besoin. Ah, il manque un moniteur. Vite, vite, je vais faire moniteur. Ah, il y a quelqu'un pour le ménage. Vite, vite, je vais faire le ménage. Et tous les services de l'église, la personne, elle veut les faire. Et le problème, quand on fait trop de choses, c'est qu'on les fait pas bien. Il vaut mieux se concentrer sur une ou deux choses. Et puis les faire de tout notre cœur, avec ferveur, avec zèle, etc. Que de faire toutes les choses de la terre. Dès qu'elle voyait une personne dans la rue, elle voulait absolument tout faire pour elle. Alors c'est bien, quelque part, on le comprend. Dès qu'elle voyait à la télévision un appel à donner de l'argent, elle le faisait. Mais sauf qu'elle n'avait pas d'argent. Et le problème, c'est qu'elle s'est mise dans des situations compliquées. Parce qu'elle voulait répondre à tous les besoins. Mais si le Seigneur appelle une église avec tant de diversité, tant de personnes diverses qui la composent, c'est parce qu'il veut que chacun de nous, nous puissions répondre à un besoin. Il vaut mieux 100 personnes qui répondent à un besoin qu'une personne qui répond à 100 besoins. Parce qu'elle va se fatiguer, parce qu'elle va tomber en dépression, parce qu'elle va se lasser, elle va se frustrer. Et les autres personnes, les 99 autres, ils vont se croiser les bras et ils vont attendre que le temps passe. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur veut que nous soyons tournés vers les autres. Avoir cet amour pratique. Est-ce que j'ai un amour pratique ? Parce que quand on est chrétien, on est tous d'accord de dire qu'on aime. On aime notre prochain. Sinon, on ne serait pas chrétien. Non, on est d'accord parce que le Seigneur, il aime les gens. Alors nous aussi, on les aime. Mais c'est facile d'aimer en parole. C'est facile d'aimer, comme dit la parole, avec la langue. La langue, oui, oui, je t'aime, je prends soin de toi, etc. Mais si je reste les bras croisés ou les mains dans le dos, ça ne marche pas. Mais je t'aime, ça veut dire, si tu ne vas pas bien, je vais parler avec toi. Je vais te visiter. Je vais te donner un petit coup de fil. Je vais t'inviter à manger parce que je vois que t'as pas le moral. Ça veut dire tout ça, je t'aime. Vous êtes d'accord ? L'amour, c'est pas seulement des paroles, mais c'est quelque chose qui se voit de manière pratique. Il y a aussi cet aspect, la jalousie. Quand on sert un morceau de gâteau, on regarde toujours dans l'assiette du voisin pour voir si sa part, elle est plus grosse que la nôtre. Enfin, ça, c'est les enfants, mais des fois, ça arrive même aux adultes. Parce qu'on est peut-être gourmand. Ah, mais il lui a donné plus qu'à moi. Et des fois, on transpose ces choses dans la vie de l'église, où on voit qu'une personne a plus de talent que nous, une personne fait le même service que nous, mais elle le fait mieux, elle le fait plus vite, etc. Et au lieu de se réjouir, on est jaloux. Ou alors, on convoite parce que telle personne a vécu une bénédiction, sa prière a été exaucée au bout d'un mois, alors que nous, ça fait 10 ans qu'on prie pour la même chose et on n'est pas exaucé encore. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La jalousie. Au lieu de dire, Seigneur, je me réjouis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis parce que si tu as fait ça pour elle en un mois, tu peux le faire pour moi. Je crois que tu es puissant pour accomplir ta volonté. Ça arrive, des fois. Ça arrive, ces choses-là. Et c'est normal que ça puisse nous toucher, parce qu'on est humain. Mais il ne faut pas que ce soit des choses qui règnent. Il faut apprendre à déposer tout ça. Et plutôt que d'être jaloux, il faut apprendre à être des personnes qui encouragent. Vous savez, quelqu'un qui va dire, ça fait 10 ans que je prie, et cette personne, elle a eu le résultat de sa prière au bout d'un mois, et qui va aller voir la personne et qui va l'encourager, mais Dieu, il va s'occuper d'elle, croyez-moi. Si elle a cette maturité pour dire je t'encourage à continuer à marcher avec le Seigneur, je t'encourage, je te bénis. Et à parler de cœur à cœur en disant, mais tu vois, tu t'es approché de Dieu, il t'a béni, fais-lui confiance. Alors que nous, on est dans la même situation, mais peut-être personne ne le sait. Mais ça, c'est une preuve de maturité. Et le Seigneur nous invite à avoir cette capacité d'encourager ceux qui sont autour de nous. C'est des choses simples que je vous dis ce matin. Mais c'est tellement important que ça soit fait de manière pratique. Peut-être vous le faites déjà, tant mieux. Mais je vous invite, si vous ne le faites pas, à le faire. Encouragez. Quelqu'un qui est peut-être fatigué, qui est peut-être lassé, qui a besoin d'entendre une parole, peut-être ne va pas le saisir au travers de la prédication, mais va le saisir avec une parole que vous allez lui dire tout à l'heure à la sortie. Ça, c'est le Seigneur qui sait.
ou cette semaine, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, une parole d'encouragement. Mais c'est ce que le Seigneur veut que nous vivions. Une autre chose que l'on trouve parmi les enfants et qu'il ne faut pas copier, c'est les caprices. S'obstiner à vouloir quelque chose. Quand c'est l'heure de manger, l'enfant nous dit « Je veux un bonbon !» Je veux un bonbon, et on s'accroche à ce désir-là qui est pas du tout sensé, et malheureusement, c'est des choses que l'on voit. On voit certaines personnes, des fois, qui s'accrochent à des désirs qu'ils ont, mais qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour eux. Et ils font des caprices, et ils s'obstinent, et ils s'entêtent, au lieu d'avoir cet aspect de cœur, cette attitude de cœur de se soumettre à la volonté de Dieu. Des fois, le Seigneur se sert des pasteurs, se sert des anciens, se sert de nos frères et sœurs pour nous donner des conseils, pour nous montrer que c'est pas sa volonté, tout simplement. Maintenant, après, le pasteur, il est pas là pour contrôler la vie des uns et des autres. Il est là pour conseiller. Il est là pour apporter la nourriture. Mais après, c'est à chacun de faire son travail. C'est à chacun de prendre. Et je pensais à cette histoire biblique. On voit dans la Bible des caprices. Un homme qui a fait un caprice parce qu'il voulait une vigne. Une belle vigne qui était là sous sa fenêtre, vous voyez de qui je parle, Akab, ce roi qui était dans l'idolâtrie à cause de son épouse, qui s'est laissé entraîner dans toutes ces choses-là, il s'est obstiné, il a fait son caprice, je veux la vigne, et comme son collègue, son voisin Naboth ne voulait pas lui donner, eh bien le résultat c'est qu'il a commencé à bouder même, parce que souvent le caprice ça va avec la bouderie. Et on pourrait se dire, non, on est tellement spirituel qu'on est au-dessus de tout ça. Mais des fois, on trouve, encore une fois. J'ai vu dans des églises des gens qui boudaient. Vous avez vu les enfants commencer quand ils boudent? Est-ce que c'est ce moment-là que vous les prenez en photo et que vous les affichez dans votre salon? Vous avez vu comment ils sont? Mais ça donne pas envie. Et même quand ils boudent, le résultat, c'est qu'on veut essayer de leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent pourquoi on a réagi de telle manière, pourquoi on leur dit non. Et ils veulent pas écouter, ils veulent pas se laisser consoler. Et le problème, c'est que parfois, on a des chrétiens qui boudent, qui veulent montrer à tout le monde combien ils sont mécontents, mais qu'ils veulent pas régler les choses, qu'ils veulent pas régler le problème, qu'ils veulent pas parler à cœur ouvert. Mais Dieu nous demande d'avoir cette vérité de cœur. Parler avec vérité à son prochain. Et on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des volontés qui diffèrent, mais c'est pas en boudant qu'on règle les problèmes. Ça, c'est une grande vérité. C'est pas en boudant qu'on règle les problèmes, mais c'est en ouvrant son cœur et en disant « Je vais parler avec mon frère, je vais parler avec ma sœur. » On va s'expliquer dans la douceur et le respect, et le Seigneur va nous diriger. Vous savez que c'est comme ça que ça marche. Et même dans le couple, pour tous ceux qui sont mariés, vous savez de quoi je parle. Ça nous est tous arrivé, à l'un ou à l'autre, de bouder quand on était plus jeune. Mais plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que ça fait que retarder le moment, la discussion qui va permettre de régler les choses. Frères et sœurs, ne boudons pas avec le Seigneur. Des fois, le Seigneur nous dit non. Mais s'il nous dit non, il sait très bien pourquoi. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il nous aime. Il sait très bien qu'il y a quelque chose, un bonbon qu'on convoite, qui va nous apporter une carie spirituelle, qui va nous faire du mal. Mais il veut nous donner, lui, le lait spirituel et pur. Il veut nous donner la nourriture consistante, qui va nous permettre de grandir en maturité. Apprenons à parler avec un cœur ouvert. Apprenons, il y a des fois des sujets qui sont délicats, mais il vaut mieux s'entourer de personnes de confiance et parler avec ces personnes que de se refermer sur soi. L'impatience. Vous avez vu les enfants, quand on leur demande à l'école d'être concentrés, ben des fois ça 5 minutes ça va, 10 minutes ça peut passer, mais alors au bout d'un quart d'heure, il y en a qui gesticulent dans tous les sens, qui ils ont une chaise mais on se demande à quoi elle sert, tellement ils sont dans cette impatience, dans cette difficulté d'être concentrés. Alors les enfants, on peut le comprendre parce qu'ils ont besoin de grandir dans cette maturité. Mais quand on est chrétien, quand on est au Seigneur et que parfois on voit des personnes qui sont impatients par rapport au projet de Dieu pour leur vie, par rapport à certains efforts que Dieu leur demande et qui ne persistent pas, qui ne persévèrent pas. J'étais choqué, je vais le dire comme ça, quand j'étais tout jeune et que je revenais au Seigneur de tout mon cœur et que je me suis aperçu que quand on parlait de Dieu à certains chrétiens, C'est pas des choses qui leur plaisaient. Ils préféraient parler de toutes sortes d'autres choses, de l'équipe de foot qui venait de jouer le samedi soir, ou de toutes sortes de sujets. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de ça, hein. Mais ils parlaient plutôt de ça, et dès qu'on parlait des choses de Dieu, ils comprenaient rien. Ils participaient pas. Et moi qui étais tout jeune et qui redécouvrais la parole de Dieu, qui avait mon cœur qui brûlait pour le Seigneur à ce moment-là, et par la grâce de Dieu, ça, c'est quelque chose qui va en grandissant. Mais quand j'ai commencé à revenir à ces choses, je me suis aperçu qu'il y avait parfois des gens qui venaient à l'église et qui se contentaient de ce qu'ils entendaient à l'église et qui n'avaient pas cet amour pour la parole quand ils étaient chez eux. Et c'est vrai, de simples discussions, approfondir notre connaissance de Dieu ensemble. Vous savez que c'est une richesse. Je vous dis pas de faire des réunions dans vos maisons, quoique je vous l'interdirais pas si vous le faisiez dans un bon sentiment, parce que c'est des choses qui édifient. Mais des fois, d'inviter un frère et de discuter avec lui de telle ou telle chose de la parole, ça nous fait tellement de bien, parce que lui, il a vécu une expérience, il a vécu telle expérience qui lui a permis de comprendre ceci ou cela sous cet angle, alors que nous, on est dans un autre angle et on s'enrichit. Mais des fois, on est impatient, léger avec les choses de Dieu. Et le résultat, c'est qu'on ne grandit pas. Mais le Seigneur nous appelle à nous fortifier. Vous avez vu dans la parole de Dieu, le Seigneur, il nous dit pas « Je vais vous fortifier ». Mais il nous dit « Fortifiez-vous ». Alors bien sûr, il nous donne sa force toute puissante. Ça, c'est pas rien. « Fortifiez-vous par sa force toute puissante et revêtez toutes les armes ». Donc, on est dans Éphésiens 6, les armes de Dieu. Il y a toute une panoplie que le Seigneur veut nous donner pour qu'on puisse prendre des forces. Mais c'est à nous de le faire. Le Seigneur nous veut simplement nous donner l'occasion de le faire, nous donne tout ce qu'il faut, nous mettre sur une table toute la panoplie. Mais si chaque matin je ne prends pas l'armure et que je la revais pas de manière spirituelle, alors je ne vais pas me fortifier. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est votre épouse qui vous force à vous habiller le matin? Ou est-ce que c'est vous-même qui le faites? Mais c'est la même chose. Le Seigneur ne va pas nous forcer, mais il va nous conseiller fortement. Fortifiez-vous. S'il y a un moment de découragement, si on sent qu'on est impatient, si on sent qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas, dans lesquelles on n'arrive pas à persévérer, mais fortifiez-vous dans le Seigneur, nous dit sa parole. Autre chose que, par la grâce de Dieu, j'ai réalisé dans ces moments où je suis revenu au Seigneur. Et je le disais une fois, vraiment, le Seigneur a permis que je passe par un temps où il y a des bases, des fondements qu'il m'a révélés en peu de temps. Peu de temps, j'ai appris des choses qui ont été le fondement de ma vie chrétienne. Et je remercie le Seigneur parce que ça a été au début de ma vie chrétienne. Parfois, on connaît des gens qui, au bout de 20, 30 ans, ils font une redécouverte du Seigneur. Et ils font des progrès à ce moment-là parce qu'ils redécouvrent certaines choses. Mais c'est tellement mieux quand on le fait dès le début. Et moi, j'ai appris, par exemple, qu'il fallait pas être susceptible ou hypersensible. Les enfants, c'est comme ça. Des fois, quand on les reprend, quand on leur dit quelque chose, ils vont être susceptibles. Ils vont être touchés en plein cœur alors qu'on leur dit une petite parole pour les aider. Ils vont se mettre à pleurer. Je sais de quoi je parle. Des fois, quand mon papa me grondait, haussait la voix, je me mettais à pleurer. Mais c'était juste pour me dire quelque chose de pas grave, mais parce qu'il avait une grosse voix, ça me faisait pleurer. Et des fois, on est comme ça. Nous, on veut, le pasteur veut bien faire et il reprend la personne, il essaye de prendre les gants, tous les gants qu'il faut, plusieurs couches de gants pour dire les choses. Et la personne, quand même, se met à pleurer, se revient dans les caprices et dans la bouderie. Et on doit avoir cette maturité spirituelle pour ne pas dépendre seulement de nos émotions. C'est normal qu'on ait des émotions, on est des êtres humains. C'est normal qu'il y ait toutes sortes de sentiments qui nous animent. Mais c'est pas à ces sentiments de prendre le dessus sur notre volonté. La foi, elle marche de pair avec notre volonté, mais elle ne doit pas se soumettre à nos sentiments. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je me sens pas bien, il pleut, il neige, il vente, je me sens pas bien, je vais rester dans mon lit avec la couette jusque sur le nez, parce que je me sens pas bien. Si c'est ça qui nous fait agir, on va pas aller loin. Mais si on laisse le Seigneur imbiber notre cœur de son esprit, si on laisse à notre volonté d'être renforcé par la présence de Dieu, alors le Seigneur est celui qui va nous amener. Celui qui marche par l'esprit, il va pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Mais celui qui marche selon la chair, il va accomplir les œuvres de la chair, tout simplement. Je me souviens de cette expérience que j'ai faite, où j'étais dans ma chambre, je priais. Et j'avais un casque sur les oreilles, et c'était un casque sans fil, et j'écoutais la musique. Et je priais, j'aimais bien écouter la musique en priant. Et donc je passais du temps comme ça, et puis à un moment donné, je vivais un temps fort, je ressentais plein d'émotions. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te loue, parle-moi, montre-moi que tu es vivant. Et puis à un moment donné, pendant que je faisais cette parole-là, je disais, Seigneur, montre-moi, apparais-moi, envoie un ange pour qu'il me donne un message. Enfin, j'avais une sorte d'idée bizarre, mystique un peu. Et puis à un moment donné, j'entends le casque qui commence à, la musique qui commence à baisser. Et j'avais l'impression comme s'il y a un ange qui allait apparaître à l'instant. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, c'était juste les piles qui avaient arrêté de fonctionner. Et moi, j'étais terrorisé. C'est ça qui m'a marqué, c'est qu'à ce moment-là, j'étais terrorisé parce que je me suis dit, mais Dieu va me prendre au mot, il va faire apparaître un ange, et je suis pécheur, et je ne mérite pas ça. Et j'ai commencé à demander pardon, et j'ai commencé à comprendre aussi qu'en fait, on dépend souvent de nos émotions, même dans des temps de prière. Et c'est pas parce qu'on ressent quelque chose de fort, ou qu'on ressent rien, que le Seigneur, il n'est pas là quand même. Le Seigneur, il est présent tout le temps. Quand on chante des beaux cantiques qui élèvent son nom, ou quand on est tout seul dans notre chambre et qu'il y a le silence, le Seigneur, il est là. Et moi, j'étais très attaché à la foi avec les émotions. Mais quand j'ai compris que les émotions, c'est bien, tant mieux quand on a un petit frisson qui nous parcourt la colonne vertébrale pendant qu'on chante, mais tant mieux aussi quand on est dans le calme et le repos, parce que le Seigneur, il est toujours là. Ne dépendons pas de nos émotions. Ne soyons pas trop sensibles. On a besoin de discerner les choses, mais on n'a pas besoin d'être trop sensible. On a besoin d'avoir une foi qui repose sur le Seigneur, une foi qui repose sur la parole, parce que la parole, elle demeure de temps en temps, éternellement. Alors que nos émotions, elles vont, elles viennent. Ça, des fois on a des hauts, des fois on a des bas, des fois on a le moral. Le lendemain matin, on est au plus bas, alors qu'il n'y a rien qui s'est passé, on a juste dormi. Mais le matin, on se lève, on a envie de rien faire. Et vous vous inquiétez pas, c'est la même chose pour moi des fois. Je me lève, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire la Bible, j'ai pas envie d'aller faire des visites, j'ai pas envie de faire tout ça. Mais je le fais pas parce que j'ai envie. Je le fais parce que c'est le Seigneur qui me le demande de le faire. Parce que c'est des choses normales. Parce que on fait pas les choses sous le coup de l'émotion seulement. Et on le fait pour obéir à notre Dieu. Et la maturité chrétienne, c'est quand notre foi n'est pas proportionnelle aux circonstances. Des fois, les circonstances, elles sont merveilleuses. On a un tapis rouge, il y a des pétales de rose dans notre vie chrétienne. Tout se débloque, les portes s'ouvrent, c'est merveilleux, tout le monde nous applaudit. Mais des fois, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la personne qui est dans la vallée de l'ombre de la mort? Il boude, il attend qu'on vienne le chercher. Oui, il continue d'avancer parce qu'il a les yeux fixés sur le bon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, tu es là, tu es présent. Alors je continue d'avancer quand même. Même si c'est dur, même si c'est noir, même s'il y a les éclairs, même s'il y a la pluie, même s'il y a le vent, je continue d'avancer parce que tu es présent. Et vous voyez que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui continuellement nous pousse en avant. C'est pour ça que peut-être la chose la plus simple à retenir, c'est que quand je suis auprès du Seigneur, je grandis. Quand j'ai cet moment d'intimité. Dieu permet que ça soit dans des temps de culte comme ça qu'on puisse s'approcher de lui. Mais c'est décuplé quand on le fait de manière personnelle. Quand on s'approche de Dieu. Moi, j'aime bien m'approcher de Dieu dans ma voiture. Oh, je ferme pas les yeux parce que ça serait trop dangereux. Mais j'aime bien prendre des temps quand je conduis parce qu'on passe des heures et des heures sur la route à m'approcher du Seigneur, à le prier. Parfois avec mon intelligence, parfois je prie en esprit, peu importe. Mais je le prends ces temps parce que je sais que c'est des choses qui me font du bien et ça me permet de grandir. Un dernier point, ne pas dire merci. On en a déjà parlé, mais je voudrais aller plus loin que ce qu'on dit d'habitude. Qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'on a tous vécu des temps où les enfants, on leur donne quelque chose et on attend, on leur donne pas tant qu'ils nous ont pas dit le mot magique, comme on dit. Merci! Et une fois qu'ils ont dit merci, c'est bon, tu peux le prendre. Mais qu'est-ce que vous préférez, quelqu'un qui vous dit pas merci ou quelqu'un qui vous dit merci mais qui après ignore que vous existez? Parce que malheureusement, quand on est chrétien, quand on voit ce que le Seigneur fait, on se rend compte qu'il exauce nos prières et que y a des moments où on lui dit merci, il y a des moments où on oublie, mais il y a des moments où on lui dit merci et puis on ne tient pas compte de ce qu'il a fait finalement. J'ai vu des gens qui ont reçu dans la prière, ils avaient un problème, une épreuve, une difficulté, ils sont mis à prier, à chercher Dieu, à venir à toutes les réunions. Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et ils avaient raison de le faire parce que c'est là qu'ils allaient trouver le Seigneur, son secours. Et une fois qu'ils ont obtenu ces choses-là, on ne connaît plus, plus personne, plus de nouvelles. Vous avez déjà vu des gens comme ça? J'en ai vu quelques-uns. Pourtant, ils ont dit merci, merci Seigneur, tu m'as béni, tu m'as sauvé, tu m'as touché, tu as fait ceci pour moi. Et puis plus rien. Silence radio. Mais quand on est reconnaissant, il y a la reconnaissance en parole, encore une fois. Et puis il y a la reconnaissance en conduite. C'est-à-dire qu'on est redevable. Quand le Seigneur nous exauce, on est redevable. Et on est déjà redevable quand on considère ce que l'œuvre de Jésus-Christ, on va se souvenir de ça tout à l'heure encore, qu'il nous a sauvés, qu'il a donné sa vie pour nous. Et qui pourra arriver à la cheville dans toutes les œuvres qu'il fera de l'œuvre que Jésus a faite à la croix? Qui pourrait arriver à la cheville? Mes frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas tous redevables, rien que pour ça, au Seigneur? C'est pour ça qu'un jour on a dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Mais combien c'est bon quand on réalise que le Seigneur est celui qui exauce nos prières, celui qui nous fait du bien, celui qui nous visite, celui qui débloque les situations alors que nous on a tiré un trait parce qu'on pense que c'est pas possible, et on le prie, il agit. Et derrière, on n'est pas obéissant, ou on ne manifeste pas notre amour pour le Seigneur. Combien on a besoin de laisser de côté cette ingratitude et plutôt de manifester cette reconnaissance continuelle. Seigneur, je te bénis. Oui, je te suis redevable. À l'époque, il y avait une expression qui c'était la suivante. Je suis votre obligé. Mais je trouve que c'est tout à fait ça qu'on est. On est l'obligé du Seigneur. Il a tellement fait pour nous et il continue de faire tellement. Seigneur, je suis ton obligé. Je suis obligé de faire tout ce que tu me demandes parce que tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Je suis obligé de suivre tes voies parce que je réalise que c'est une grâce et je veux le faire de tout mon cœur. Croissons, grandissons avec les moyens que Dieu met à notre disposition. Des moyens simples. Si vous avez une Bible, vous avez un moyen déjà de grandir. Le lait pur et saint de la parole, il est là entre vos mains. Le Seigneur veut l'utiliser pour que nous grandissions, parce qu'on est tous appelés à continuer à marcher sur ce chemin de maturité pour la gloire de Dieu.